à peine revenu en Petite-Bretagne, à Carex. Il advint que Tristan dut porter secours à Caerdin, son compagnon fidèle, et fut blessé d'un coup de lance empoisonné. De jour en jour, Tristan s'affaiblit, va plus mal. Peu à peu, le venin se répand en son corps. Il blêmit, et ses os peu à peu se découvrent. Il sentit que sa vie se perdait. Il comprit qu'il lui fallait mourir, et n'eut plus qu'un désir, revoir Iseult la blonde. Il mande Caerdin en secret. Iseult aux blanches mains, sa femme s'interroge. Tout effrayée, elle vient s'appuyer en dehors de la chambre, tout près du mur, touchant au lit où gît Tristan. Elle écoute. « Doux ami, dit Tristan, je perds ma vie et veux, avant ma mort, revoir Iseult la blonde. Le Seigneur vous bénisse. Écoutez ma prière. Prenez cet anneau-là. Entre la reine et moi, c'est un signe. Dites-lui que mon cœur la salue et que seule elle peut me porter réconfort. Et dites-lui aussi que si je ne la revois pas, je vais mourir. Dites-lui qu'elle se ressouvienne encore de ce breuvage qu'ensemble sur la haute mer nous avons bu. Hélas, c'est à la mort que nous avons goûté. Qu'il lui souvienne enfin du serment que je fis de ne jamais aimer qu'Iseult. Je l'ai tenu. Derrière la paroi, Iseult aux blanches mains entendit tous ces mots. Elle défaillit presque. Tristan poursuit. Le temps presse, ami. Hâtez-vous et revenez vite vers moi. Si vous tardez, je crains bien, doux amis, de ne plus vous revoir. D'ici 40 jours, ramenez-moi Iseult. Prenez ma belle nef et emportez 2 voiles, une blanche, une noire. Et si vous revenez avec la reine Iseult, dressez la voile blanche et la noire, si vous vous en revenez seul. Ami, je n'ai plus rien maintenant à vous dire. Que Dieu vous guide et vous ramène sain et sauf. Tristan soupire, se lamente, et Caerdin pleure pareillement, l'embrasse et prend congé. Mais la colère de femme est chose redoutable, dont il faut se garder. Plus elle aura aimé, et plus cruellement elle se vengera. Amour de femme est prompte, et prompte aussi sa haine. Et cette inimitié, une fois survenue, dure plus qu'amitié. La femme sait toujours tempérer son amour, mais sa haine jamais. Debout contre le mur, Iseult aux blanches mains avait tout entendu. Ce Tristan qu'elle aimait disait là maintenant son amour pour une autre. Elle n'oubliera pas ce qu'elle vient d'apprendre. Un jour, si elle peut, elle se vengera sur ce qu'elle chérit plus que tout. Écoutez maintenant, gentes dames, mes seigneurs, cette aventure si douloureuse et pitoyable à ceux qui aiment. Déjà la nef d'Iseult approchait. Caerdin, au plus haut du mât, hisse joyeux la voile blanche, afin que Tristan reconnut du plus loin sa couleur. La Bretagne apparaît. Iseult aux blanches mains tient alors le moment rêvé pour sa vengeance. Elle approche du lit de Tristan et lui dit « Caerdin vient à nous, ami. J'ai vu sa nef. Elle est encore en mer et avance à grand-peine, mais je l'ai reconnue. Puisse-t-elle apporter ce qui doit vous guérir ?» Tristan tremble et demande « Êtes-vous sûr, belle amie, que c'est sa nef Et si oui, dites-moi la couleur de sa voile. Je l'ai bien vue. Ils l'ont ouverte et haut dressée, car ils ont peu de vent. Sachez-le, elle est noire. Tristan se retourna vers la muraille et dit « Ma vie s'en va. Je ne puis plus la retenir. » Trois fois, il répéta « Iseut, Iseut, ami, Iseut. » Puis une quatrième. Alors, il rendit l'âme. Sur la mer, cependant, le vent s'était levé, frappant la voile en plein milieu, poussant la nef jusqu'à la terre. Iseut la blonde débarqua. Elle entendit au long des rues de grandes plaintes, et les cloches sonnaient aux moutiers, aux chapelles. Elle demande aux gens pourquoi se glacent et pleurent. Un vieillard lui répond « Pour grande douleur, dame, Tristan le franc, le preux, notre Tristan est mort. » Iseut l'entend et ne peut dire un mot. Elle monte au palais, auprès de Tristan mort. Iseut, aux blanches mains affolées par le mal dont elle était la cause, poussait des cris, se lamentait sur le cadavre. Iseut, la blonde, entra et dit « Je vous en prie, dame, relevez-vous, laissez-moi approcher. Croyez-moi sur ma foi, j'ai plus de droit que vous à pleurer sur Tristan, car je l'ai plus aimé. » Alors tournée vers l'Orient, elle pria. Puis elle découvrit légèrement le corps, s'étendit près de lui, tout au long de la mie, le serra, lui baisa le visage, la bouche, et mourut par amour et douleur de la mie. Quand la mort des amants fut connue du roi Marc, il prit la mer, vint en Bretagne et fit ouvrir un cercueil de béryl pour Tristan et un autre de chalcédoine pour Iseut. Il emporta vers Tintagel sur son bateau leurs corps aimés. Auprès d'une chapelle, il les ensevelit en deux tombeaux de part et d'autre de l'abside. Mais dès la nuit, hors de la tombe de Tristan, jaillit, verte et feuillue, une ronce vivace. Enlevant ses rameaux et ses fleurs odorantes, par-dessus la chapelle, elle plongea tout droit dans la tombe d'Iseut. Les gens de Tintagel coupèrent cette ronce. Or, dès le lendemain, elle revoit le jour, aussi verte, fleurie et vive, et plonge encore au lit d'Iseut la blonde. Ils voulurent trois fois la tailler, vainement. Enfin, l'on rapporta la merveille au roi Marc. Sur son ordre, on laissa vivre libre la ronde.